OK, je l'ai vous levé. On va lire Apocalypse 1, versets 4 à 8. Apocalypse 1, versets 4 à 8. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors, je veux s'asseoir. Alors, ce qu'on va faire, vu qu'on... quand on prépare des leçons de ce style-là, là, je suis en train de préparer Apocalypse 1, versets 9 à 20. Je suis en train de travailler dedans. Et il y a un temps qu'on se rend compte qu'il y a une richesse. Quand on dit que là, 9 à 20, je vais vous le donner. Moi, je le prépare comme pour vous le donner pour une semaine. Mais il y a des fois qu'en le donnant, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de matériel que pour une semaine. Ça fait que dans ce temps-là, tu le donnes en deux parties, comme on a fait avec celui-là. Alors, ce qu'on va faire, on va reviser très rapidement ce qu'on a vu la dernière fois, de manière à ce qu'on repeigne le fil conducteur dans tout ça. Alors, on avait vu que les chrétiens du premier siècle vivaient des circonstances extrêmement difficiles, persécution, emprisonnement, bannissement, mauvais traitement, et bien d'autres choses encore. Alors, eux exprimaient leur foi et s'opposaient à l'empereur qui était rendu, qui se prenait pour Dieu, qui demandait l'adoration. C'est extrêmement dangereux. Et ils vivaient dans une peur, et il y avait des gens qu'ils connaissaient, dont Jean. Jean était rendu, il avait été banni, il avait été envoyé sur une petite île, là, dans le bout de la Grèce, là, une petite île déserte, rocheuse, qui était, il n'y a pas grand-chose là. Les autres, pour eux, les Romains, c'était une façon de te débarrasser de quelqu'un qui te gênait, et de l'envoyer dans une petite île, t'es sûr qu'il faisait du bruit, il faisait du bruit pour lui. Alors, c'est ça qu'ils vivaient à leur époque. Alors, bien entendu, ça créait chez eux de la souffrance, de la peur. Et ces gens-là avaient besoin de se faire rappeler qui était le Jésus-Christ. Pas pour rien qu'on l'appelle le livre de l'Apocalypse « Révélation ». C'est la révélation de qui est Christ, sa personne, sa puissance, sa capacité de contrôler tous les événements qui se passent sur la terre. Et pour leur rappeler qu'il était conscient, pleinement conscient, de tout ce que ces gens-là vivaient dans les moindres détails. Tu as besoin de te faire rappeler ça, là, surtout quand ça ne va pas bien. Nous autres, on ne sait pas c'est quoi. Là. Au Québec, là, on peut dire que la persécution, on connaît ça un petit peu. Comparativement à ce qu'ils ont vécu à cette époque-là, ce qui a été vécu au cours des siècles, comme à l'époque de la Réforme, c'est vraiment, comme on dit en québécois, c'est des pinottes, là. Alors, eux, ils souffraient vraiment, ils avaient besoin de se faire rappeler ces choses-là. Alors, on avait vu que le livre de l'Apocalypse avait été écrit pour quatre raisons. Il avait été écrit pour avertir les dangers du compromis. On lisait ce matin dans le chant qu'on a chanté, « Pardonne-nous de nos compromis ». On sait c'est quoi un compromis? Compromis, c'est essayer de faire le bien puis le mal en même temps. Ça ne marche pas, ça. Alors, il voulait les avertir des dangers du compromis. Il y en avait des dangers du compromis. Il y avait de l'idolâtrie tout autour d'eux. Il y avait de l'immoralité. Ça régnait partout. Dans des villes comme Éphèse, Corinthe, il y en avait énormément. Alors, c'est facile. Plus c'est pourri autour de toi, plus si tu glisses toi-même, ça paraît pas bien. Hein? Tout le monde le fait le don, comme on dit. Alors, il y avait les dangers du compromis. Il y avait aussi besoin d'être préparé et d'être fortifié pour les persécutions à venir. Autrement dit, il est en train de vouloir leur rappeler que c'est pas fini, ça. Il y aura encore un bout de temps. Et ça va être dans toute l'histoire de l'Église. Toutes les églises locales du monde à travers le temps ont été persécutées et vont continuer de l'être jusqu'à la fin. Alors, on a besoin de se faire rappeler qu'on a besoin d'être préparé, on a besoin d'être fortifié. Si jamais ça l'arrivait en Amérique du Nord, des persécutions, comme on, des fois le mercredi soir, on leur donne une soirée de prière, on parle des persécutions qui se passent dans les pays. Il y a une cinquantaine de pays dont on a parlé dans les mois passés, les années passées même, où les gens sont vraiment très, très durement traités à cause de leur foi. Si nous, ça nous arrivait là, est-ce qu'on serait préparé à affronter ça? Moi, je ne suis pas sûr du tout. Parce qu'on est habitué dans la ouate, on n'est pas habitué dans les conditions difficiles. Et le Seigneur, si jamais il permet, ça arrive, il va permettre aussi qu'on soit préparé et qu'on soit fortifié. Autre chose qu'il avait besoin, c'est d'être encouragé devant leur crainte de l'autorité romaine, des magistrats locaux, autrement dit des juges qui pouvaient les condamner n'importe quel temps. Ceux qui avaient des métiers, ils pouvaient ne plus avoir le droit de pratiquer leur métier. Quand on te coupe ton gang-pain, là, ça va pas bien dans ta vie dans ce temps-là. Là. Alors, c'est ça qu'ils vivaient. Les magistrats locaux, et il y avait aussi les Juifs dans toutes les villes qui sont mentionnées, parce qu'ils ont choisi 7 noms de villes. Il y avait des Juifs qui étaient dans ces communautés-là, et eux, ils s'arrangeaient très bien avec les Romains. Il y avait le tour de s'arranger avec les Romains. Et eux, ils ne se gênaient pas pour dénoncer les chrétiens aux autorités. Alors, quand t'as tout ce monde, t'as les magistrats, t'as les autorités romaines, puis t'as les Juifs qui te dénoncent à tour de bras, et quand tu sais ce qu'ils vont te faire, ou bien non, ce qu'ils peuvent te faire, c'est un petit peu normal que tu pognes, comme on dit en québécois, les kittles, que t'as peur. Et ensuite, ils avaient besoin d'être consolés. Parce que si tu perds soit ton métier, soit ta source de revenus, ou tu perds ta liberté, tu te fais emprisonner, ou tu te fais envoyer en bannissement sur une île, ou quoi que ce soit, tu as besoin d'être encouragé. Tu as besoin d'être fortifié, d'être consolé. Toutes ces affaires-là. Alors, c'est ça qu'on avait vu un petit peu rapidement la dernière fois. On avait vu que dans les versets 4 et 5, Christ était présenté aux gens qui recevaient l'Apocalypse comme étant une bénédiction. C'était une bénédiction pour son Église et c'était une bénédiction qui était appropriée. On avait vu deux raisons pour lesquelles la bénédiction était appropriée, parce qu'il leur dit la grâce et la paix. La grâce, autrement dit, on avait dit la semaine dernière que la grâce, on a la grâce initiale, la grâce que Dieu nous donne lors de notre régénération, lors du fait qu'il nous montre qu'on est perdu, qu'on s'en va en enfer, il nous présente la personne de Christ, ça c'est la grâce initiale. Ça nous régénère, on est mort spirituellement et tout d'un coup on devient vivant. Et on veut suivre Christ, la grâce initiale. Mais les Écritures nous disent qu'après la grâce initiale, il y a une multitude de petites grâces que le Seigneur continue de nous donner tout le long de notre vie pour nous permettre de rester sur le chemin. Parce qu'on n'aura pas la force. C'est Dieu qui permet, jour après jour, qu'on demeure sur le chemin étroit et resserré. Donc, il leur dit, il y a besoin de la grâce. Il leur dit qu'il leur donne la grâce et qu'il leur donne aussi la paix. On avait vu qu'on est vraiment dans ces circonstances-là, dans un monde persécuteur, cruel, idolâtre, violent, on a vraiment besoin de retrouver notre paix intérieure. C'est pas ça que ça nous est jamais arrivé. Hein. Si ça arrivait, là, comme des fois on disait que des églises, qu'il y a quelqu'un qui nous a raconté ça cette semaine, je me souviens plus qui, qu'à un moment donné, il était dans un culte, là, puis la police rentre. Et là, ils peuvent aussi bien sacrer à voler, te sortir dehors. Si ça arrivait, disons, un matin, ils rentrent 3, 4, 7, 8 policiers, l'armée, puis qui commencent à vouloir nous dire non, il n'y a plus question que les églises, c'est fini, là. Qu'on commençait à vivre ça tranquillement, puis ils mettraient le feu, là, à l'église, qu'on se retournerait chez nous après, là. Comment on aurait-tu besoin d'être consolé, d'être rassuré? On aurait-tu besoin? On aurait un grand besoin. Alors, il leur dit la paix est difficile à retrouver. Et lui, il leur disait, donc, Jésus est une bénédiction. Et il leur rappelle aussi, à cause des mots qu'on dit, qui est, qui était, qui vient, à venir, on parle du Dieu trinitaire. Il est en train de rappeler aux chrétiens de l'époque que le Dieu trinitaire, le grand Seigneur, est au contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. Et il leur rappelle qu'il est là, autrement dit. Alors, il leur dit, de la part de celui qui est, qui était, qui sera, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, on parle du Saint-Esprit, et de la part de Jésus-Christ, les trois personnes de la Trinité sont mentionnées. On avait vu, versets 5 et 6, que Christ était aussi une louange. Autrement dit, c'est pas juste de se rappeler qu'il est une bénédiction, tu sens le besoin, plus tu prends conscience devant qui tu te trouves et qui est au contrôle de tout ce qui se passe sur la terre, à la fois qui protège son Église, qui l'écoute, qui est au milieu d'elle. Tu sais, là, les versets quand des fois on dit, Christ, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu de vous. Combien de fois on s'est rassemblés, même si les Écritures le disent, qu'on croit vraiment que le Christ dont on parle, cet être extraordinairement puissant, là, qu'il est au milieu de nous. C'est des choses qui sont spirituelles, et à cause du fait qu'on ne le voit pas, on pense qu'il n'est pas là. Nous, ce qu'on ne voit pas, il n'est pas là. Et pourtant, c'est pas ça que les Écritures nous disent. Il est là. Il est là. Et les anges nous observent, en plus. Ils aiment plonger leur regard, puis nous regardent. Juste penser à ça, là, qu'on est assis dans une petite église, puis qu'il y a des anges qui nous observent, qui nous regardent. On n'est pas vraiment conscient de ça, hein? N'est-ce pas? C'est vrai qu'on n'est pas conscient de ça. Donc, les personnes qui se rendent compte qui est Christ, à un moment donné, ils ont besoin de louer. Parce qu'il est tellement grand que quand tu prends le moindrement conscience qu'il est là, et ce qu'il a fait pour toi, et ce qu'il continue de faire pour toi tous les jours, tu as besoin de le louer. Donc, c'est ça que ça dit dans le verset 5 et 6. Donc, il leur rappelle des choses concernant le Christ, par exemple, le témoin fidèle. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par le témoin fidèle? Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a voulu témoigner de ce que son Père, la mission que son Père lui avait donnée. Et il a été fidèle jusqu'à la mort sur la croix. Je me souviens d'avoir déjà lu un document qui avait été écrit par un médecin, qui décrivait les souffrances de Christ sur la mort, mais c'est une souffrance physique. Et semble-t-il que c'est extrêmement douloureux une crucifixion, hein. On n'en doute pas, là. On n'en doute pas. J'ai pas besoin d'être crucifié pour le croire. Mais ce que je veux dire, c'est que ces souffrances physiques, comparativement aux souffrances morales qu'il acceptait de subir à notre place sur la croix, une souffrance physique, c'est rien. Fait qu'imaginez-vous, si nous, on comprend pas c'est quoi la profondeur et la grandeur de ces souffrances physiques, comment pouvons-nous comprendre ces souffrances morales? Autrement dit, le fait que Dieu le Père lui a fait subir l'équivalent de ce que nous aurions dû subir en enfer à notre place, dans une courte période de temps. Il y a matière là-dedans à méditer pour le restant de tes jours. Ça, je vous le dis, c'est sérieux, là. Le restant de tes jours, puis même rendu même si tu le fais tous les jours, 10 heures par jour, t'auras pas fini d'être au bout, là, parce que c'est d'une profondeur. Alors, c'est ça. Le témoin fidèle, il a été fidèle. Et dans Jean 6, verset 38, il dit, « Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et après, on parle de lui avec le titre, le témoin fidèle, mais on dit aussi le premier-né entre les morts. Autrement dit, c'est lui qui a été le premier ressuscité, le premier-né, mais nous, on va le suivre parce qu'on est en lui, et un jour, nous aussi, on va ressusciter la même chose que lui. Et après, ça nous dit qu'il est le prince des rois de la terre. On est en train de commencer. pense qu'on était rendu là. Ou à peu près. OK. Le prince des rois de la terre. Ça aussi, il faut prendre conscience de ce qui se passait à l'époque. Les empereurs, ou du moins Domitien, qui a vécu dans à peu près ces années-là, 95-96, ils se prenaient pour Dieu. Et il avait la prétention d'être Dieu et il exigeait d'être adoré. Ici, les personnes qui souffraient à l'époque de l'Apocalypse ont besoin de se faire rappeler que Jésus est le prince, donc le roi des rois. C'est ça qu'il est en train de dire. Le prince des rois de la terre. Tous les rois qui étaient à l'époque, qui vivaient dans quelque pays que ce soit, là, il est en train de leur rappeler, moi, je suis le roi. Les rois, on sait qu'à l'époque, il y avait le droit de vie ou de mort. Ils étaient très puissants, les rois de l'époque. Plus qu'aujourd'hui, les présidents. Parce qu'aujourd'hui, ils ont pris des pouvoirs et ils ont partagé un petit peu. Le président, disons, des États-Unis, aujourd'hui, n'est pas puissant comme un empereur de l'époque. Parce qu'un empereur de l'époque, il faisait ce qu'il voulait, puis il y en avait un qui se mettait à travers, et c'est dangereux pour sa peau, comme on dit. Alors, prince des rois de la terre, il avait besoin de se faire rappeler que ces rois-là qui prétendent à la divinité, qui vous font tellement souffrir, là, il y a un roi au-dessus d'eux. Et c'est lui qui contrôle ces gens-là. Parce que, à première vue, quand les rois de la terre t'emprisonnent, te battent, te font perdre ta job et plein d'autres choses du style, est-ce que tu vois la main de Christ à l'intérieur de ça? Est-ce que tu vois son contrôle? Tu seras porté à Dieu, ben là, c'est les rois de la terre qui mènent, puis Dieu là-dedans, avec vous chier dans le portrait, je le vois plus, je comprends plus. Alors, ils ont besoin de se faire rappeler dans le verset 6 où il dit « À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui nous a fait roi et sacrificateur de Dieu son Père. » Donc, il nous rappelle que Jésus a accompli pour eux une œuvre d'amour, une œuvre de libération aussi. La semaine, je me souviens qu'on discutait dans le corridor l'autre jour. La libération, quand on parle de la libération du péché, on parlait des 4 P. C'est intéressant de se souvenir de ces 4 choses-là. Les chrétiens ont été libérés des 4 P. C'est une façon mémotechnique de se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Il nous a libérés de la punition du péché par la justification. Retenez ça. C'est bon de se retenir et de méditer là-dessus. L'autre, c'est de la puissance du péché par la sanctification. Autrement dit, aujourd'hui, comment ça se fait que le péché a moins de domination sur nous que quand on était païen? C'est la sanctification qui fait ça. C'est la parole de Dieu, c'est l'influence de l'Évangile qui permet que ça n'enlève pas tous nos péchés. Mais ça fait qu'on est moins dominé par le péché qu'on l'était au moment de la régénération. Puis normalement, la progression de la vie d'un chrétien, ça devrait être qu'on l'est de moins en moins. De là, le titre qu'on parlait ce matin, la faille dans notre sainteté, c'est que si on ne fait pas ce que le Seigneur nous demande, à quelque part, on ne se sanctifie pas autant qu'on se devrait. Donc, la punition du péché, la puissance du péché, et un jour, ça va être de la présence du péché. Quand on va être au ciel, il va nous libérer de la présence du péché. Ça fait tellement drôle de penser qu'un jour, on peut être dans un endroit où il n'y a aucune forme de péché par aucune personne qui est là. Les anges vont être là, les chrrétiens qui vont être au ciel, quand on va être rendu au ciel. Le péché, il n'aura plus. On ne parlera plus les uns contre les autres, on ne mentira pas, on ne volera pas, etc. Il n'y a plus de péché. La présence, donc il n'y aura plus de péché. Et l'autre chose, c'est que ça va nous libérer du plaisir du péché. Des fois, il y a un plaisir de rajouter au plaisir, pas juste un plaisir sexuel. Des fois, quand quelqu'un, disons, te fait de quoi? Souvent, on a une expression qui dit « La vengeance est douce au cœur de l'Indien ». Tu sais, ça veut dire que quand quelqu'un te fait de quoi, ça te fait plaisir de le voir souffrir. T'aimes ça, là. Tu sais, Il y a un plaisir de rattacher au péché. Mais la Bible nous libère de ça. Et quand il y a donc une œuvre d'amour, il veut rappeler l'œuvre d'amour du Christ, il veut rappeler aussi une œuvre d'ennoblissement. On devient des nobles. Parce que dans la version, Martin, et aussi la version Osterval, on parle pas d'un royaume. Dans la version, on parle de royaume. On fait de nous un royaume. Mais dans l'autre version, c'est vraiment, il a fait de nous des rois qui nous a fait rois et sacrificateurs. Qu'est-ce que c'est en train de nous dire? Toi, tu es un roi.
Amen.
Toi, tu es une reine. On est des rois à cause qu'il nous a fait roi. On est en lui et lui est en roi. Ça fait de nous des rois. J'ai déjà pensé à ça que moi, quelqu'un m'a dit un jour que j'étais un roi. Roi, ok, roi, là, non roi, R-O-Y, là. Mais je parle d'un roi R-O-I, là.
Ouais.
Que j'étais un roi ou que quelqu'un était une reine. On pense pas à ça. Là. Pourtant, c'est ce que. Alors, aussi, il veut rappeler aux chrétiens, dans la dernière partie du verset 6, il dit à lui. Là, vraiment, il met tous les feux sur Christ. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Il est en train de monter Christ vraiment. Attribuer la gloire à Christ, c'est reconnaître sa déité, sa divinité. C'est une prise de conscience que dans sa personne, la personne de Christ, sont reflétées simultanément la gloire de Christ, la gloire de Dieu, c'est ses attributs qui sont révélés tout ensemble. Quand tu prends juste l'amour, tu en as déjà plein ton chapeau, parce que c'est infini, puis ça c'est un attribut sur... Disons qu'il y en a 25, pour les besoins de la cause. Disons qu'il y en a 25, mais quand on parle « à lui soit la gloire », tu es en train de dire que lui a les mêmes attributs que Dieu le Père et la force au siècle des siècles. Alors, c'est le reflet simultané et infini. « À lui soit la gloire, la bonté, la sagesse, l'amour, la miséricorde et tous les attributs, Christ... À lui soit ça, parce que, oui, il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme, il est au ciel, et maintenant il règne. Colossiens 1, versets 15 à 19, en parlant de Jésus. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures, car c'est en lui... ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Hey, il est en train de parler des anges, il est en train de parler du ciel, il est en train de parler de réalité qui nous dépasse. Tout a été créé par lui, donc il a participé à la création. Souvent, on divise les œuvres du Dieu trinitaire comme en trois grandes sections. Dieu le Père, le Créateur, Dieu le Fils, le Rédempteur, Dieu le Saint-Esprit, le Sanctificateur. Mais dans le fond, là, sont interreliés les postes. Alors, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Ça veut dire que notre existence physique, si Jésus arrêtait de penser à nous, tout dans l'univers s'écroulerait. Ça subsiste, on subsiste par lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Et le verset 19, c'est un verset sublime. car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui. Le verset, le dernier qu'on a lu, là, quand il dit « À lui soit la gloire et la force au siècle et des siècles, amen », est en train de prendre la personne de Christ qui est au ciel maintenant avec un corps humain. Son corps humain, il l'a encore au ciel, mais excepté que dans son corps humain, toute la divinité est là, toute la plénitude, c'est-à-dire, il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui. Alors, quand on dit à lui soit la gloire, c'est que les personnes qui prennent conscience que Christ est maintenant au ciel comme homme Dieu et qu'il contrôle de façon absolue tout ce qui se passe sur la terre, non seulement dans le domaine politique, mais dans le domaine personnel. Comme nous, dans nos vies personnelles, on oublie ça que le Christ est au contrôle. C'est lui qui permet telle ou telle chose, ou qui fait que telle chose arrive ou que telle chose n'arrive pas. Très important de se faire rappeler ça. Donc, on était rendu au troisième point. On va aller dans Jean 17, versets 4 et 5. C'est dans la prière sacerdotale, quand le Seigneur Jésus s'adresse à son Père, il lui dit, « Je t'ai glorifié sur la terre. » Il dit à son Père, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et c'est ça ici que l'apôtre Jean est en train de dire, « À lui soit la gloire. » Il est en train de nous rappeler que ce Christ-là qui est venu sur la terre, il a tous les attributs de la divinité et il a maintenant son corps ressuscité au ciel, mais que rien de ce qui se passe sur la terre ne lui échappe. Très important. On va regarder le troisième point, Christ, une assurance. Donc, on avait vu que Christ, dans 4 à 8, il y a trois choses qui sont rappelées sur la personne de Christ. Christ est une bénédiction. Christ est... l'autre, c'est quoi, dans deux jours, excusez-moi. L'autre est une louange. Et la troisième, une assurance. Il veut leur donner une assurance. S'il y a quelque chose qu'ils ont besoin, eux, à ce moment-là, c'est bien ça. Et il leur dit dans les versets 7 et 8, « Et voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra. Ceux-mêmes qui l'ont percé. » Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est et qui était et qui sera le Tout-Puissant. Ce qui est intéressant de noter dans ce passage-là, c'est que l'assurance qu'il veut leur donner est entre deux fois le mot « Amen ». Mm-hmm. Moi, j'avoue, je ne l'avais jamais vu, celui-là. Hein. C'est quand tu regardes à la fin du verset 6, il y a un « Amen », puis il y a un autre « Amen ». Alors, c'est deux, entre deux « Amen », l'assurance qu'il veut leur donner, il y a deux fois le mot « Amen ». C'est comme, on aurait dit, c'est comme un sceau. Mm-hmm. Quand on veut mettre un sceau sur quelqu'un, donner de l'officialité à quelque chose, Alors, l'assurance qu'il veut leur donner est vraiment une assurance solennelle et elle est scellée entre deux « Amen ». Dans la version anglaise King James, nous avons le mot « Behold », l'équivalent du mot « Voici ». Des fois, c'est très difficile de traduire la Bible. Le mot « Behold » puis le mot « Voici », selon moi, ça ne veut pas dire la même chose. Quand tu fais juste dire « Voici »,« Behold », ça veut dire « Arrête, porte attention, ouvre tes oreilles, tes yeux, behold. » En anglais, behold, c'est vraiment, c'est plus que, moi, selon moi, c'est plus que voici. C'est, les anglais, behold, c'est vraiment, ça véhicule l'idée de l'obligation de porter attention, de méditer, de réfléchir, de prendre pleinement conscience de quelque chose. Alors ici, en parlant de la deuxième venue de Christ, aucun effort ne doit être négligé pour comprendre la fermeté et la certitude de l'événement. Voici, il revient, on parlait ce matin de la deuxième venue de Christ, c'est certain. Behold, ça veut dire dans les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Arrêtez-vous, méditez, pensez que ce que le Christ dit, ce que Dieu a dit, ça va se réaliser. C'est sûr. C'est pas comme des fois, ouais, mais là, ça va-tu se passer? Ça va-tu arriver? T'es sûr que ça va arriver? Alors, la phrase qui parle du retour du Christ est entre deux Amen, celui du dernier mot du verset 6 et celui du dernier mot du verset 7. Ce double Amen est hautement significatif. Le mot Amen, quand on dit, tu sais, on est habitué depuis qu'on est jeune, hein, on nous apprend des prières, puis ça finissait toujours par le mot Amen. Mais est-ce qu'on prend, tu sais, des fois, il y en a qui l'avaient traduit, ainsi soit-il. Quand on apprenait le Notre Père, dans le fond, on apprenait le Notre Père par cœur, parce qu'on disait, ainsi soit-il. Donc, c'est Amen, ça parle d'une chose établie, d'une chose sûre, d'une chose invincible. Il n'y a rien qui peut arrêter ça quand ça va arriver. Irréversible et immuable. Le mot « Amen », il est tellement chargé de signification que souvent on l'oublie un petit peu. Mais ici, là, le fait que cette assurance-là que Christ va revenir est entre deux « Amen », c'est hautement significatif. Alors, ça part d'une chose établi, sûr, invincible, irréversible et immuable. Pour quelle raison? Parce que Dieu lui-même l'a décrété. Quand Dieu décrète, ça arrive. Et une assurance, pas pour rien, qui parle du fait qu'il est, que tout œil le verra. Parce qu'aujourd'hui, certaines doctrines circulent comme de quoi il va y avoir un retour du Christ en deux phases. Il va revenir secrètement. Selon moi, c'est de la foutaise. Parce que quand ça dit « il vient sur les nuées », quand il va revenir, tout œil le verra. Il n'y a pas d'enlèvement secret. Moi, je crois que c'est une fausse doctrine. Et tout œil le verra, ceux-mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui, Amen. Alors ici, il y a certaines choses, certaines caractéristiques qu'on a besoin de se faire rappeler sur la deuxième venue de Christ, sur sa deuxième venue. Et quelles sont-elles, ces caractéristiques-là? La première, soudain. Les gens ne s'y attendront pas nécessairement. Deuxième, personnel. Tout œil le verra. Qui? Christ, une personne. Visible, tout œil le verra. Que tu sois en Chine, que tu sois aux Indes, que tu sois en Afrique, que tu sois à Mégantic, que tu sois à Sherbrooke. Il n'y a pas personne qui va se poser des questions. Tout le monde va le voir en même temps. Vous allez me dire comment vous pouvez faire ça, la terre est ronde, il y en a qui sont en bas, il y en a qui sont dessus, il y en a qui c'est la nuit, il y en a qui c'est le jour. Quand il va revenir, là? Il n'y a pas personne qui va se poser des questions. Tout le monde va le savoir. Tout le monde va être sûr. Et cette deuxième venue-là va avoir une autre caractéristique. Ça va être une deuxième venue corporelle. Dans son corps ressuscité. Le corps qu'il a reçu lors de sa résurrection. Et ça va avoir une autre caractéristique. Ça va être spectaculaire et ça va être public. Tout œil le verra. Alors, les chrétiens du premier siècle, comme nous aujourd'hui, devons attendre ardemment sa deuxième venue. C'est intéressant de noter que dans la Bible, les nuées sont symboles de majesté et de jugement. On peut le voir, par exemple, dans un passage de l'Ancien Testament, dans Zacharie, au chapitre 12, verset 10. « Il arrivera ce jour-là, que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. » On sait que Jérusalem, ça va être un problème pour beaucoup de nations qui viendront contre Jérusalem. « Et je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, l'esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils en feront le deuil, comme on fait le deuil d'un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui comme un pleure un premier-né. » Autrement dit, les Juifs qui n'ont pas reconnu Jésus lors de sa première venue, lors de sa deuxième venue, là, ils vont le reconnaître. Se frotter la poitrine, ça veut dire... Quand tu te frappes la poitrine, c'est pas une félicitation. Là. Tu te frappes la poitrine de douleur et ça dit qu'ils pleureront amèrement sur lui comme un pleure un premier-né. Ils vont se rendre compte, les yeux spirituels vont les ouvrir. Notre Messie est venu et on ne l'a pas reconnu et ils vont souffrir énormément de cela. Là. Et l'autre idée qui est dans le verset 8, c'est vraiment pour nous montrer, il y a les deux « Amen », et pour nous montrer que tout cela, c'est quelque chose qui a été décrété par le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Trinitaire Tout-Puissant. Parce qu'il termine dans le verset 8, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Autrement dit, tout commence en lui, tout passe par lui et tout retourne à lui. Je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui est, il est là, à leur époque, puis il est encore qui est aujourd'hui, et qui était, depuis que la création a commencé, et qui sera. Ils ont-tu besoin de se le faire rappeler, et qui sera? Parce que les persécutions, ils commencent, ils sont loin d'être terminés. Ils ont besoin de se rappeler que Dieu va être avec lui et que Dieu avec eux et que Dieu contrôle absolument tous les événements qui se passent sur la terre à cette époque-là. Donc l'alpha et l'oméga, quand on utilise cette expression-là, l'alpha c'est la première lettre de l'alphabet grec. Si vous étudiez le grec biblique, le A, le alpha, c'est la première lettre et l'oméga, c'est la dernière. Autrement dit, c'est comme tu dirais de A à Z aujourd'hui. Alors je suis l'alpha et l'oméga, tout a pris sa source en moi, tout passe par moi, tout retourne vers moi. Alors c'est ça qu'il est en train de leur rappeler. L'idée que veut exprimer le texte ici est que le Seigneur Jésus est le commencement et la fin de toutes choses. Moi, je ne peux pas résister à vous citer Romains 11, versets 33-36, parce que c'est le passage que moi, je trouve extraordinairement beau que dans si peu de mots, des vérités aussi larges, aussi profondes, aussi merveilleuses sont dites. Parce qu'on remarque pas souvent que Romains 11, c'est Paul qui... Parce qu'on dit souvent que le Romain, c'est le livre qui explique le salut. Après avoir tout expliqué le salut, à partir du chapitre 1, là, il est rendu au chapitre 10, puis il arrive à la fin du chapitre 11, et là, il s'exclame, c'est comme une... Il explose devant l'œuvre de Dieu. Et il leur dit, « Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont impénétrables et que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ou qui lui a donné le premier et en sera payé de retour? » Moi, c'est le verset 36 qui me fait à terre, comme on dit. « Car toute chose... » Et là, faut s'ouvrir l'esprit à... C'est quoi qui veut dire toute chose? C'est tout. Toutes choses. Toutes choses sont de lui. La source. Et par lui, le moyen. Et pour lui, la fin. La source, le moyen, la fin. Tout. Toutes choses sont de lui. Et par lui. Et pour lui. Et là, il termine en disant, à lui soit la gloire dans tous les siècles. Et il termine encore par un beau gros amen retentissant. Alors, Paul ici, il est au sommet de son admiration devant l'œuvre de Dieu, devant l'œuvre de la rédemption. Donc, Christ est la source, le canal et la fin de toute chose. Ses décrets sont remplis de sagesse, sont remplis d'amour, sont remplis de miséricorde et sont remplis de l'ensemble de chacun de ses attributs. On pourra faire un sermon. Il est éternel et son contrôle qui se passe sur les événements de l'époque, comme son contrôle se passe sur les événements modernes aussi. Il est parfait. Rien lui échappe. Incessant, ça veut dire que ça n'arrête pas. Jamais. Il est au contrôle de ce qui se passe ici ce matin. Il est au contrôle de ce qui se passe dans toutes les églises du monde. Il est au contrôle de ce qui se passe dans tous les pays du monde. Il est parfaitement au contrôle dans toute la terre. Il n'y a pas un individu ou même pas un être vivant. Les animaux sont compris là-dedans. Là. Toute chose. Donc, parfait, incessant, omniscient et omniprésent. Très intéressant, ça, ce petit bout-là. Mm-hmm. Omniscient, ça veut dire, s'il y a des chrétiens actuellement, disons en Chine, qui souffrent, dans le plus petit village à l'autre bout de la Chine, que je ne connais même pas le nom, mais dites-vous une chose, le Seigneur, il sait aussi bien ce qui se passe là que qu'est-ce qui se passe ici. C'est total, c'est global, c'est parfait. Donc, un omniscient, ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit sur la terre où que le Seigneur ne sait pas ce que son Église vit, puis c'est ce que les dirigeants politiques font, peu importe ce qu'ils font, même s'ils font des petits meetings secrets, là, à un moment donné, puis ils pensent qu'il n'y a personne qui sait à part d'eux autres, là. Dieu est au courant de toutes choses. Et omniprésent. On parlait tout à l'heure qu'il est présent dans l'Assemblée. Il est présent ce matin à Saint-Jérôme, il est présent à Montréal, il est présent dans toutes les assemblées, sans aucune exception, ceux qui sont véritablement des chrétiens. Il a aussi, quand ça dit « à lui soit la gloire à tous les siècles », vraiment, il a la puissance pour exécuter souverainement toutes les décisions qu'il prend concernant toutes choses, nos vies personnelles, les vies des nations, les choses politiques qui se passent dans le monde. Il est souverain, ça veut dire que c'est lui qui est le grand patron, c'est lui qui... Et tout ce qu'il décide va s'accomplir. Si, dans les décrets de Dieu, tu avais été prévu pour être un martyr, bien, ça va arriver. Mais en même temps que ça va arriver, il va te donner la grâce et les moyens nécessaires pour que tu sois capable de passer à travers. Mm-hmm. Quand vous lisez l'histoire des martyrs dans l'Église, là, c'est merveilleux parce que vous prenez des gens qui étaient aussi peureux que nous autres, là, et vous les mettez dans des circonstances où on tremblerait de peur, où on hurlerait, puis ces gens-là traversent ça en chantant. Quelque chose qui se passe, qui n'est pas normal. Ben, c'est parce que la grâce de Dieu qui permet que tu sois capable de le vivre. Alors, il a la puissance pour exécuter souverainement toutes ses décisions. J'aime bien le mot pentocrator. Il est le pentocrator de tout ça. Alors, trois applications sur l'ensemble de ce qu'on a vu, les quatre, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Christ est la bénédiction suprême. Et les bénédictions qui découlent de son œuvre sont innombrables. Ça voudrait dire qu'on n'est pas capable de les compter, même si on essayerait. Innombrables, ineffables. Quand là, on utilise le mot ineffable dans les Écritures, ça veut dire que même l'écrivain le plus doué qui essaierait de décrire ce que Dieu fait dans la vie des hommes et des saints et des nations, il ne sera pas capable de l'exprimer comme du monde parce que ineffable, par définition, c'est quelque chose que, même si tu essayais de le décrire, tu ne seras pas capable parce que tu ne le décriras pas comme il faut. Tu vas le décrire partiellement, incomplètement. Donc, ineffable et aussi, toutes ces bénédictions sont adaptées à nos besoins. Les besoins du premier siècle étaient particuliers. Il y avait besoin d'être rassuré, et fortifiée et avertie d'une façon particulière. Comme nous, quand on lit ça aujourd'hui, si jamais ça revenait, on aurait besoin de relire ces passages-là très attentivement. Comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Deuxièmement, les louanges que nous devons à Christ sont infiniment nécessaires, infiniment insuffisantes. Pensons-nous que quand on s'est lâché, comme on dit en québécois, quand on s'est lâché lousse là, dans la louange, Seigneur, je te loue pour ci, je te loue pour ça, puis je te loue. Même si tu dirais jusqu'à demain matin, là, sont insuffisantes parce qu'il y a beaucoup plus que ça. Il y a ça, mais plus que ça. Et tous nos louanges doivent être infiniment exaltés. Exalté, ça veut dire monter à des hauteurs que tu n'as jamais atteint avant. Des fois, tu peux penser à Dieu dans des hauteurs que tu n'as jamais montées, mais quand on dit infiniment exalté, même si tu montes très, très haut dans tes... Disons, tu pars en peur, comme on dit. Tu loues Dieu, puis tu n'as pas fini, puis t'es émerveillé. Mais quand on dit infiniment, ça voudrait dire, il faudrait t'en mettre encore parce que tu n'as pas mis assez. Prions le Seigneur de nous donner de percevoir beaucoup plus clairement sa beauté, sa richesse, son amour, sa grâce, sa tendresse et ses insondables perfections. J'aime beaucoup le mot insondable. Le mot insondable, il est riche. Tu as beau sonder, insondable, ça veut dire que tu ne peux pas le sonder. Toutes ses perfections sont insondables. Alors, si tu voudrais le louer, tu as l'ouvrage, comme on dit. Et troisièmement, soyons rassurés, parce qu'il nous a promis qu'il reviendra bientôt en gloire. Visiblement, publiquement, soudainement et immuablement. Cette deuxième venue est un décret divin, absolument sûr et absolument vrai. Gloire à Christ, notre Sauveur, notre Protecteur, notre Souverain universel. Viens, Seigneur Jésus, nous t'attendons. Amen. Amen.